Ladies and gentlemen, my name is David Kirkham. I'm a professor of political science here at BYU and a senior fellow at the International Center.
Mesdames et messieurs, je m'appelle David Kirkham. Je suis un professeur de sciences politiques à BYU et un chercheur pour le droit comparatif et la politique internationale au centre. Je suis enchanté de vous présenter le dernier panel de la journée. Et je suis parmi des Africains de différentes parties de l'Afrique. Et j'ai le privilège d'avoir travaillé dans tous leurs pays. Et c'est un grand privilège pour moi. Je vous présente brièvement. Regardez bien sûr les biographies et CV. Je vous dis qui ils sont, mais prenez le temps de regarder leur biographie. Nous avons à ma gauche la ministre de Télé, Mariam, qui va nous parler en premier. Ensuite, ce sera Yao Crado, chef d'état-major du ministère de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire. Et suivi par René Ferguson, qui est tuteur principal de l'université de Witwatersrand en Afrique du Sud. Monsieur le ministre, à vous la parole.
Merci beaucoup. J'aimerais tout d'abord remercier les organisateurs et pour leur accueil chaleureux à l'aéroport notamment. Ma présentation aujourd'hui va traiter des affaires en Éthiopie. Je vais expliquer un petit peu d'abord l'histoire de tolérance et de différence en Éthiopie. Et je vais particulièrement me focaliser sur l'inscription des organismes religieux. Et je vais également expliquer les défis de ce processus. L'Éthiopie est localisée à la corne de l'Afrique. Nous sommes le deuxième pays le plus important en nombre d'habitants en Afrique, avec 90 millions. Et nous sommes à 15 degrés nord de l'équateur. Nous avons un plan de croissance et de transformation sur un cycle de 5 ans. Et dans les 10 dernières années, nous avons connu une double croissance de 11%. C'est également un lieu de grandes opportunités d'investissement. Nous avons de nombreuses religions, la chrétienté, les musulmans. La chrétienté représente 62,8% de la population. Les catholiques sont 0,7% de la population totale. Les religions traditionnelles représentent 2,6% et les musulmans 33,9%. Donc c'est la religion la plus importante Ensuite viennent les orthodoxes, les protestants et les catholiques. Ces religions dans notre pays ont une grande histoire de tolérance et de coexistence. Et que ce soit les religions indigènes, le judaïsme, la chrétienté et les religions de l'islam, donc ont coexisté en Éthiopie. Il n'y a pas d'histoire de guerre à l'introduction ou l'expansion de ces religions. Donc la chrétienté a été introduite au IVe siècle et les musulmans sont arrivés au 7e siècle. Ensuite sont arrivées les autres religions au cours des 1400 années qui ont suivi. Bien sûr, ça ne veut pas dire que les rois n'utilisaient pas la religion. En fait, ils ont utilisé la religion dans leur politique pour diverses raisons. En ce qui concerne la religion et les droits de l'homme, avant, en fait, lors de la deuxième constitution en 1955, l'empereur a déclaré et implémenté une religion de l'État. C'est la chrétienté, une religion chrétienne. Et cela a nié la reconnaissance et la protection de toutes les diversités. Et ceci inclut aussi donc les diversités religieuses. Il y avait le slogan de « une nation, une langue et une religion ». Donc, les autres diversités religieuses n'ont pas été acceptées à partir de ce moment-là très bien. Le régime militaire était contre toutes les religions. En fait, toutes les religions étaient pour eux anti-développement, contre le développement en fait, et contre la révolution. Donc, elles ont été abolies dans la Constitution de 1987. Les deux gouvernements étaient antidémocratiques et la religion n'était pas une expansion pour eux. La Constitution de 1995 reconnaît la souveraineté du peuple, la Constitution comme étant une loi suprême du pays, les rois démocratiques et humains. La séparation de l'État et de la religion a été déclarée. Et aussi, cette constitution reconnaît la conduite, la responsabilité du gouvernement. Donc, lors de avec cette nouvelle constitution de 1995, l'article 11 sépare la religion et l'État. C'est-à-dire que l'un et l'autre ne peuvent pas interférer les uns sur les autres, l'un sur l'autre. L'article 25 déclare également l'égalité religieuse et déclare qu'il n'y a pas qu'aucune religion est supérieure à une autre. L'article 27 garantit et protège la liberté et la croyance religieuse. Et ces trois provisions sont structurées de manière à donc respecter les droits démocratiques et humains. L'article 90.2 reconnaît que donc le gouvernement et l'éducation publique est libre de toute influence politique, culturelle et religieuse. Le seul prérequisite pour qu'une religion soit pratiquée en Éthiopie, c'est qu'elle observe la Constitution. Bien sûr, le processus de développer l'inscription, car il y a un processus d'inscription, veut dire donc qu'il doit y avoir des arrangements entre les religions et les participants actifs. Les prérequisites, donc, sont parmi d'autres les personnes, donc, que cette religion n'aille pas à l'encontre de l'institution du gouvernement. Les avantages pour les institutions religieuses sont qu'elles deviennent une personnalité légale et elles peuvent bien sûr porter procès, faire procès et être attentées en procès. Également, pour le gouvernement, l'avantage, c'est qu'il peut, le gouvernement peut intenter un procès plus facilement et aussi contrôler les pratiques hors la loi. Et pour les disciples de la religion, l'avantage de l'inscription, c'est que c'est la transparence et la responsabilisation des églises. Il y a bien sûr des défis et la période de renouvellement peut être difficile parfois. Ça demande une supervision serrée et ça ne peut, parfois ce n'est pas aussi simple que ça devrait l'être. Et chaque organisation a leur propre gouvernement et ce n'est pas forcément évident de leur demander de s'aligner tous aux mêmes règles. Également, un nombre critique minimum est requis pour l'inscription. Donc, il faut s'assurer que les petites églises ne disparaissent pas sous le nombre des grandes ou des églises importantes. Donc, merci beaucoup.
And by the way, the only interpretation occurring are the ones that have numbers up there on the board. So if it's not numbered, there is no interpretation.
And the one that's not. Le discours suivant va être en français. Donc, Amarak est le numéro 9 dans la liste que vous avez.
Italian is number 7. Okay. Thank you.
Merci. Thank you. Je voudrais saluer cette auguste assemblée qui, depuis hier déjà, nous entretient sur la thématique de la religion et des droits humains. Religion et droits humains, j'ai envie d'ajouter cas de la Côte d'Ivoire. À cette tribune, donc, je voudrais apporter ma modeste contribution à cet exercice majeur en déclinant la pratique et l'expérience ivoirienne à la matière. Pratique et expérience basée sur la neutralité ou encore la laïcité de l'État face aux faits religieux. Comme vous le constatez, mon exposé ne tend pas à démontrer une théorie de droit qui devrait régenter les relations État-religion. Cela appartient, je pense, à la doctrine. Cependant, il peut, pourquoi pas, nourrir la doctrine en raison des intérêts qu'il pourrait susciter. La société ivoirienne est fondamentalement plurielle. Pluralité d'ethnie, pluralité de culture et pluralité de religion. Dès lors, se trouvait posée la question des règles de conduite permettant aux différentes communautés de vivre ensemble dans le respect mutuel. Mais l'État nouvellement indépendant était déjà confronté au poids des différentes religions. Les deux entités, c'est-à-dire l'État et la religion, agissent idéologiquement sur les mêmes personnes. À partir du moment où elles s'organisent, toute communauté de croyants se dote d'une hiérarchie, exerce sur ses croyants une influence, cherche à accroître leur nombre. De ce fait, elles entrent déjà plus ou moins en concurrence avec l'État. Comment l'État va-t-il alors se comporter? Accepter d'être subordonné à la communauté croyante ou essayer de dominer les religions? Les mettre au service de sa politique ou leur laisser la liberté? Quel rapport doit-il établir avec les religions au regard des enjeux qui sont, entre autres, la souveraineté de l'État, responsable du destin national et de l'unité des citoyens face à la diversité des confessions religieuses? Devant cet enjeu majeur, l'option a été faite à la fois pour la séparation et la coexistence pacifique entre l'État et les différentes religions d'une part, et œuvrer pour les relations pacifiques entre les différentes religions d'autre part. Cette orientation a toujours été au centre de toutes les lois fondamentales. Quel est alors le fondement de ce principe? La Constitution ivoirienne de 2000 affirme dans son préambule la diversité religieuse de la société ivoirienne et son attachement aux valeurs spirituelles. Elle proclame l'adhésion de l'État de Côte d'Ivoire aux droits et libertés tels que définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981. La question religieuse y est évoquée successivement dans plusieurs articles. De manière explicite, l'article 30 de la Constitution dispose que la République de Côte d'Ivoire est une, indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure à tous l'égalité devant la loi, sans distinction d'origine, de race, d'ethnie, de sexe et de religion. Elle respecte toutes les croyances. En application donc de cette disposition, l'État s'est imposé une organisation et un fonctionnement. Le principe est que l'État est non confessionnel. Il ne professe aucune foi, n'adhère à aucune religion, ne donne investiture et privilèges particuliers à aucune des communautés de croyants. Mais la non-confessionnalité ne signifie pas que l'État ignore les faits religieux, exclut les relations avec les communautés de croyants et les autorités religieuses. La non-confessionnalité exprime la séparation entre l'État et la religion du point de vue fonctionnel, laissant bien sûr chacun s'organiser et fonctionner selon ses règles, ses objectifs propres, dans le respect des lois de la République. Dans cet esprit, le rapport de l'État avec les religions est marqué par la neutralité, la transparence, mais aussi la vigilance. Comment alors cette politique est-elle mise en œuvre? La mise en œuvre donc du principe de laïcité par l'État se traduit par la volonté politique de laisser donc les religions exercer librement leur mission, tout en les encadrant par des structures étatiques. De manière pratique, l'État traite de façon équitable et égale les communautés de croyants en tenant compte non seulement de leur appartenance numérique, mais aussi de leur importance objective et de leur impact social. L'État veille, entre autres, à ce que aucun homme ou parti politique n'utilise et ne manipule la religion et le sentiment religieux à des fins politiques ou partisanes. Tous les citoyens soient traités de la même manière et que ni les individus ni les institutions ne soient l'objet de discrimination en raison de leur appartenance aux pratiques religieuses. Les religions exercent leurs activités d'éducateurs de conscience pourvu qu'elles ne quittent pas le champ spirituel, ne perturbent pas l'ordre social et ne deviennent pas des forces politiques. Ainsi, l'État a assuré, par des dispositions pratiques, l'encadrement et l'appui des religions afin qu'elles œuvrent effectivement, individuellement et ensemble, à la promotion de la paix entre tous les citoyens. Au total, l'État prend des mesures pratiques sur la promotion de cette laïcité. On notera, entre autres, la création d'un cadre permanent de dialogue et d'échange entre les pouvoirs publics et les représentants des différentes religions, les garanties de l'impartialité de l'État dans le traitement des acteurs de la sphère religieuse, la mise en place d'une structure de régulation de la laïcité et l'encouragement au dialogue interconfessionnel entre les grandes familles religieuses. Quelles sont donc les grandes familles religieuses en Côte d'Ivoire? Plusieurs confessions religieuses cohabitent. Historiquement et chronologiquement, il y a d'abord l'islam, concurrence de 40%. Apparaît ensuite le christianisme sous ses deux versants, catholique et protestant, un peu plus de 20%. Viennent ensuite toutes les autres confessions religieuses. Et ces religions donneront naissance à plusieurs nouveaux mouvements religieux que sont l'islam et ses confréries musulmanes, le christianisme et ses courants évangéliques et pentecôtistes, les églises indépendantes africaines issues des mouvements prophétiques. Et à cette liste, il faut ajouter un nombre non moins important de filets des mouvements venus d'Orient, le bouddhisme, la foi bahaï, l'Association internationale de la conscience de Krishna. Un recensement des différentes associations culturelles déclarées dans nos services dénombre un peu plus de 300 confessions religieuses. Malgré leur diversité, il n'existe pas de conflit entre l'État et ses communautés de croyants, fruit d'un dialogue permanent entre les deux entités. Ce dialogue s'est davantage renforcé avec la crise de 10 ans que le pays a connue par la création de structures diverses de régulation, notamment le Forum des confessions religieuses, le collectif des confessions. dans la même dynamique, les leaders religieux réunis au sein du Forum des confessions religieuses adressent régulièrement des déclarations communes à leurs différents fidèles, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou simples croyants. Ils animent conjointement des conférences publiques et initient le concert des prières interreligieuses pour la paix en Côte d'Ivoire. Dans son fonctionnement, le Forum des confessions religieuses dispose d'un organe de vérité et de vigilance. Il a le pouvoir d'interpeller et de sanctionner au besoin les communautés et les chefs religieux indélicats. Au terme donc de cette communication, il est à retenir que la Constitution garantit la liberté de religion de la population ivoirienne vivant sur l'ensemble de son territoire. Bien plus, l'ensemble des lois et politiques générales adoptées par les dirigeants favorisent la liberté de culte. Ainsi, on peut s'en apercevoir, l'État, en raison de la diversité confessionnelle de la société civile, a opté depuis la période post-coloniale pour la laïcité ouverte ou inclusive, c'est-à-dire celle qui préserve et garantit la liberté de toutes les religions et de tous les cultes des citoyens, en même temps qu'elle proscrit l'établissement d'une religion officielle. Sont systématiquement écartées donc les notions de laïcité dite semi-ouverte ou sélective, qui ne préserve et ne garantit que la liberté de certains cultes et religions. Aussi proscrite, la laïcité dite fermée ou intégrale, qui impose aux religions de s'acculturer aux valeurs de la République. Ces formes-là, qui s'apparentent plus ou moins à de l'embrigadement, peuvent déboucher sur le radicalisme, source de désordre et parfois de chaos, dont aucune législation ne peut en faire l'économie. C'est cela qu'il faut éviter, en encourageant la religion à être plutôt un des ferments de la citoyenneté responsable. Je vous remercie.
Professor Ferguson,
tout d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs du congrès tout particulièrement M. Connolly, donc, dont l'église se trouve juste derrière mon campus. J'ai l'impression d'être un peu une anomalie parce que je suis une éducatrice. J'enseigne les droits de l'homme et les études humaines. Et je suis intéressé donc par les droits de l'homme dans l'éducation et notamment dans le contexte de l'Afrique du Sud. Je suis donc une éducatrice et je suis intéressé par tout ce que vous avez dit en ce qui concerne donc comment ces problèmes sont traduits au niveau des étudiants et donc les relations de la loi et de la religion les fondements donc des enfants auprès des enfants ou dans les écoles secondaires. Donc j'ai écrit mon discours du point de vue d'un éducateur et de ce que j'observe quotidiennement. L'Afrique du Sud est passée d'une oligarchie raciste à une société démocratique ouverte. Et si vous connaissez notre histoire, vous saurez que seulement en 1994, nous sommes devenus une démocratie après 300 ans de discrimination raciale. Donc, notre histoire est à la fois fascinante et pleine de défis. J'aimerais vous donner un petit peu d'historique en ce qui concerne les religions en Afrique du Sud. Nous avons beaucoup de religions en Afrique du Sud, des religions traditionnelles africaines, la chrétienté sous de nombreuses formes, tout comme les catholiques romains, les orthodoxes grecs, beaucoup de protestants, des méthodistes, presbytériens, et même les baptistes et des églises chrétiennes africaines et des jeunes églises chrétiennes, tout comme l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, les Témoins de Jéhovah, etc. Nous avons également le judaïsme, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, les Rastafari et beaucoup d'autres. Beaucoup, bien sûr, en Afrique du Sud, n'appartiennent à aucune église, mais sont quand même identifiables par les uniformes qu'ils portent. Et on les voit quelquefois dans les parcs, que ça donnait à des rites religieux. L'Afrique du Sud aussi connaît un grand flot de migration, donc des pays avoisinants qui sont en guerre, et donc est au cœur des problèmes des droits de l'homme. Avec cette diversité de religions, confinées dans seulement 1,2 million de kilomètres carrés, avec une population de 51 millions, et si on compare ça avec les États-Unis, on se rend compte qu'il n'est pas étonnant qu'il y ait des tensions quelquefois entre les groupes religieux et les droits de l'homme. Avec une population indigène importante, dans une région où les conflits et les tensions naissent souvent, on observe l'intersection de l'expression libre, de la culture, des droits sexuels, de l'orientation sexuelle, de la sécurité et des droits de l'enfant. Les tensions apparaissent lorsqu'une religion dominante dans les écoles impose donc leurs règles sur tous les enfants et attendent que tous les élèves se conforment à leurs règles. La conceptualisation des droits de l'homme dans l'Afrique du Sud est liée à notre déclaration des droits de l'homme parce qu'elle a été construite en réponse à l'histoire sociale et politique de l'Afrique du Sud. Je vais parler donc des déclarations des droits de l'homme de l'Afrique du Sud. Donc en ce qui concerne la constitution de l'Afrique du Sud et ce qu'elle dit de la liberté religieuse, notre déclaration des droits de l'homme met l'accent sur l'égalité de la race, du sexe, de la grossesse, les statuts de la famille, ethnique, la couleur, l'orientation sexuelle, l'âge, etc. Van de Veer a dit qu'en ce qui concerne les diversités de la religion en Afrique du Sud, que la constitution de l'Afrique du Sud est une preuve de sa tolérance profonde et de son accommodation. Elle s'assure de l'exercice libre de la religion et sanctionne la libre assemblée et l'association libre de quiconque. Il y a également des commissions qui font partie de ce que nous appelons le chapitre 9 de notre Constitution. Ils ne sont pas contrôlés par l'État et ils sont là pour protéger notre démocratie. J'aimerais aussi mentionner la section 31 de notre Constitution qui parle donc, qui dit qu'une personne qui appartient à une communauté linguistique, religieuse ou culturelle ne peut pas se voir nier ses droits avec les autres membres de cette communauté, le droit de jouir de leur culture, leurs pratiques religieuses et de leur langue, le droit de se joindre et maintenir leur association culturelle, linguistique et religieuse, et le droit à les droits de ces de la section 1, donc que je viens de lire, ne peuvent pas être exercés de manière contraire à la Constitution ou à notre Déclaration des droits de l'homme. Depuis l'introduction de la nouvelle Constitution en 1996, nous avons eu des documents qui font part de la politique religieuse dans l'éducation dans notre pays. Mais la Constitution donc met l'emphase sur le rôle et la reconnaissance de la liberté religieuse dans la société. Donc, toute politique doit refléter notre Déclaration des droits de l'homme. En 2005, il y a eu ce qu'on appelle le projet des droits de l'éducation qui a publié des petits livrets donc, qui ont été publiés en 2005. Ces petits livrets étaient fondés en part par la Fondation pour les droits de l'homme de l'Afrique du Sud et Sauver les enfants, une association suédoise, et étaient compilés avec l'intention de fournir des guides sur les problèmes donc, qu'on rencontre à l'Église. Il y a 13 livrets. Je vais me référer à celui qui est intitulé « La religion et les écoles » que Naem Jina a écrit en 2005. Donc, le projet des droits de l'éducation a été initié en réponse à la section 29 de la Constitution de l'Afrique du Sud qui déclare que quiconque a droit, tout le monde a le droit à une éducation de base, y compris une éducation basique pour les adultes. Ce livret ne se concerne pas seulement, n'est pas seulement concerné par les droits à l'éducation, mais aussi les droits dans ou au sein de l'éducation. La politique nationale sur la religion et l'éducation souligne les quatre relations possibles entre l'État et la religion. Tout d'abord, un modèle théocratique dans lequel l'État s'aligne avec une religion particulière. Ensuite, un modèle répressionniste dans lequel l'État rejette la religion. Un modèle séparationniste dans lequel l'État ne rejette pas la religion, mais se crée un divorce entre la religion et la sphère séculaire, et le modèle coopératif dans lequel l'État est séparé de la religion, mais pense que les deux doivent travailler ensemble. Et c'est le cas du gouvernement de l'Afrique du Sud. Gina fait remarquer qu'une séparation stricte entre l'État séculaire et la religion serait très difficile à mettre en pratique dans un pays comme l'Afrique du Sud, vu la visibilité des différents groupes religieux et aussi parce qu'il y a beaucoup d'échanges entre les religions et la vie publique, comme je l'ai déjà expliqué. Dans les écoles publiques, ces droits sont souvent mis sous silence, alors que la philosophie de la religion dominante prend le dessus souvent. J'aimerais partager deux cas, et peut-être que nous pourrons en discuter après. Le premier cas, je vais expliquer un petit peu a trait à l'enseignement de la religion à l'Église. La politique nationale sur la religion et l'éducation a été construite pour s'occuper de donc l'enseignement de la religion à l'école. Avant 1995, seulement la chrétienté calvinistique était enseignée et privilégiée dans les écoles. Les autres dénominations chrétiennes, ainsi que les autres religions, étaient mal vues et le problème, donc, c'est que beaucoup d'écoles maintenant, même si le gouvernement donc, a essayé de mettre fin à cette discrimination, dans les religions majoritaires de l'école prennent le dessus souvent. Et c'est le droit des écoles selon les sections 15 et 31 de notre droit de l'homme. Cela veut dire que la non-reconnaissance des groupes religieux minoritaires dans les écoles, et ça veut dire aussi donc la non-réciprocité, c'est-à-dire pas d'égalité entre les groupes minoritaires et la religion pratiquée dans les écoles. Dans les écoles publiques, que ce soit ouvertement ou secrètement, une religion particulière ou même la philosophie séculaire est adoptée par l'école et rend difficile donc l'expression de certaines religions. Souvent, on interdit donc le port des foulards pour les filles musulmanes ou la barbe pour les garçons musulmans, où on interdit aux filles hindoues d'avoir le nez percé, etc. Donc nous devons éduquer les étudiants et les éducateurs pour le port de ces symboles religieux. J'aimerais également noter un autre cas, c'est la population indigène d'Afrique. Beaucoup d'Africains du Sud continuent de pratiquer les coutumes traditionnelles africaines. Seulement, certaines coutumes ont été mises à jour dans les médias parce que certains pensent qu'elles enfreignent d'autres droits, notamment les droits des enfants. Ces pratiques sont donc le deuxième cas que je voudrais souligner. J'aimerais souligner que certaines de ces pratiques sont liées indirectement à l'éducation puisqu'elles sont pratiquées dans les communautés de l'Afrique du Sud, les communautés indigènes. Mais ce sont des choses dont les enfants peuvent parler à l'école, ou même que certains enfants de l'école, des fois, ne viennent pas à l'école pour participer dans ces rites. Les deux exemples que je vais nommer sont l'exemple du test de virginité pour les enfants et la circoncision des jeunes gens pour marquer leur initiation dans le monde adulte. Le problème avec le test de la virginité, c'est une pratique associée à une cérémonie de roseau annuelle, qu'on appelle aussi Umlanga, en Isuzulu. La coutume du test de virginité avait disparu il y a longtemps, mais la pratique a été remise à jour par le roi Zulu pour combattre le sida. Beaucoup d'activistes des droits de l'homme et de la bioéthique se sont soulevés contre cette pratique parce qu'ils pensent qu'ils violent les droits des enfants, leur vie privée et leur dignité. L'acte pour les enfants de 2006 interdisent les pratiques religieuses, culturelles et sociales qui sont dangereuses pour les enfants. Donc, les tests de virginité ne peut pas, de par la loi, être donné à une jeune fille de moins de 16 ans. Et c'est la même chose pour la circoncision des jeunes garçons. la tentative d'interdiction des tests de virginité ont été dénoncés par les traditionalistes, disant que cette tentative va à l'encontre des droits culturels. Aussi, cette pratique a été vue comme sexiste, et en ce qui concerne aussi la virginité des femmes, le test n'est pas fiable, et donc certaines filles peuvent être étiquetées de impures à tort. Également, la pratique de la circoncision a été déclarée, a été vue comme une invasion de la vie privée. Également, le gouvernement a demandé que les jeunes reçoivent des soins médicaux appropriés après circoncision. On a même suggéré que les garçons reçoivent l'opération dans un hôpital, quelque chose qui a été rejeté donc par les communautés indigènes pour qui l'initiation dans les montagnes fait partie du rite de circoncision et très important pour eux. En tant qu'éducatrice, connaître ces tensions qui existent entre l'éducation et la religion est important. Un problème qui demande encore à être résolu est le problème du support, du soutien de la religion et du relativisme culturel. En ce qui concerne le test de virginité, une jeune fille de 21 ans s'est adressée dans les médias. Elle a dit « On ne nous oblige pas à le faire, nous le faisons parce que c'est notre culture. Nous remercions le roi, c'est-à-dire le roi Zulu, pour l'avoir remise à jour. Nous nous abstenons du sexe pour nous protéger contre les maladies et et pour ne pas tomber enceinte. Maintenant, j'aimerais qu'on en discute.
Je remercie les membres du panel et je leur avais demandé de nous laisser quelques minutes pour des questions. Je vais d'abord commencer. En janvier, j'ai eu le privilège d'assister à une conférence au Ghana pendant laquelle c'était des participants pan-africains. C'était un consortium religieux pour le continent africain. Et la question que j'avais, qui est encore dans mon esprit, nous avons trois parties de l'Afrique représentées. Qu'est-ce que vous avez en commun quand il s'agit de la question de religion et droits de l'homme? Je ne pense pas à l'Afrique globalement, mais il y a beaucoup de diversité, beaucoup d'histoires. Est-ce que vous voyez qu'il y a de la valeur à se rassembler et de discuter de cette question? Ou quels sont les pièges dans lesquels on pourrait tomber en parlant de l'Afrique globalement? Est-ce que vous voudriez répondre à cette question?
Merci beaucoup encore. Je pense qu'il est très clair que, d'après donc la discussion que nous avons eue ce matin et la réalité que nous avons observée dans les diverses régions de l'Afrique, que la diversité est une réalité. Et tout travail de législation, tout succès du gouvernement donc en matière de liberté de religion ne peut pas rester timide face à la diversité religieuse. Donc la diversité indigène, par exemple, est tellement nombreuse que ça pose des questions aussi au reste du monde. C'est que la diversité religieuse est une réalité à laquelle tout le monde doit faire face. Ça fait partie de l'humanité et de notre intégrité humaine. Et un système qui déclare que qui se déclare donc un système démocratique doit reconnaître la liberté religieuse et la diversité religieuse. La liberté religieuse, l'égalité religieuse et la séparation de l'État et de la religion donc sont importants. Et si un de ces paramètres est absent, toute l'intégrité est compromise en ce qui concerne les problèmes religieux. Et j'aimerais aussi souligner un autre point important, c'est que la plupart de ces dénominations religieuses ont coexisté pour plus de 200 ans et ont fait montre de tolérance les unes envers les autres. Les religions, bien sûr, promotent la coexistence, le développement, la paix, mais il y a un nombre de groupes qui veulent utiliser la religion pour leur propre pouvoir. Et c'est le cas aujourd'hui dans plusieurs États. Merci beaucoup.
Bien, je voudrais très certainement abonder dans le même sens que mon collègue de tout à l'heure. Vous nous demandez qu'est-ce qu'on peut mettre en commun pour essayer de fédérer un peu les problèmes religieux au niveau de nos États. Je vous répondrai tout simplement que parce que ce sont des croyances, il est difficile de fédérer des solutions uniques qui pourraient s'appliquer à l'ensemble. Nous sommes dans une société, vous allez dire, chacun a son caractère, chaque peuple a sa façon de vivre. C'est vrai, on peut tous être de la même confession religieuse, mais de par notre culture de base, nous sommes fondamentalement différents par rapport donc à la façon de se comporter. Si vous prenez un musulman, je dis simplement comme ça, algérien, je ne crois pas qu'il puisse avoir, je vais dire, les mêmes caractères qu'un musulman ivoirien, par exemple. Parce que nous ne vivons pas dans la même société. Et donc, si vous voulez, l'environnement va façonner donc la façon de concevoir cette religion et la façon de l'exercer. Alors, vous allez donc distinguer j'ai dit le mot comme ça, excusez-moi, les intégristes, les modérés, etc. Est-ce qu'on peut mettre cet ensemble dans un panier? Je vous retourne la question. C'est pas possible. Alors, pour vous dire que c'est vrai, les solutions trouvées ailleurs peuvent nous permettre d'évoluer en Afrique par rapport à cela, mais il va être difficile, comme l'autre l'a dit, de voir quelque chose de commun qui puisse s'adapter à tous. Il faut donc l'assumer et faire en sorte que l'essentiel est qu'il y ait ce dialogue interreligieux, ce dialogue entre l'État et les communautés religieuses, de façon que, harmonieusement, tous puissent concourir donc à la paix dans la société.
Je crois que peut-être que c'est une des raisons pour laquelle nous ne parlons pas suffisamment. C'est parce que beaucoup de peuples africains sont en guerre et que ceux qui sommes en paix feraient bien de parler de ces problèmes qui affligent l'Afrique. j'opère dans un cercle différent. Habituellement, je ne suis pas avec des personnes qui travaillent dans le domaine légal, puisque je suis une éducatrice, mais nous avons des conférences dans lesquelles nous discutons donc entre éducateurs d'États africains différents. Et dans certaines de nos conférences, nous avons rencontré des gens du Zimbabwe, de Sutu, qui était un tout petit royaume, d'un autre royaume d'Afrique du Sud, des gens du Kenya et de Malawi, quelquefois. En novembre, juillet-août l'année prochaine, il y aura un grand congrès de l'histoire des religions, à Stellenbosch, dans mon pays. Et c'est le chapitre africain de la Société internationale de l'histoire des religions. Ce sera vraiment une opportunité pour les historiens de la religion et les professeurs de religion de se rassembler depuis tous les pays de l'Afrique. Et nous, bien sûr, nous faisons ça du point de vue des éducateurs, de l'éducation. Mais je crois que ce que nous partageons, c'est la séparation de l'État et de la religion qui, il me semble, est une position nécessaire à prendre du fait de la diversité de nos pays.
Une autre question, elle devra être courte. J'aimerais demander mon collègue d'Afrique du Sud, ma collègue d'Afrique du Sud, si peut-être qui concerne la loi et l'éducation, la tension entre l'État qui interdit hashish ou l'utilisation de ganja en tant qu'article de fait. Jusqu'à présent, c'est l'interdiction des tribunaux. Une personne a été interdite de devenir un professionnel à cause de cette interdiction. Et il y a eu d'autres questions du même genre. En tant qu'éducateur, est-ce que le ganja devrait être permis à cause de croyances qui vont dans le sens que c'est essentiel ou pour le bien de la communauté antérieure, l'État devrait-il interférer par rapport à cette pratique?
Je ne pense pas avoir la réponse. Je pense que du fait que l'utilisation de la marijuana est illégale en Afrique du Sud, le problème est que le fait de fumer la ganja est devenu une raison de marginaliser les Rastas en Afrique du Sud. Et le reste est venu en force du fait des abus qu'ils ont connus, qu'ils ont rencontrés. Et donc la misconception de leur culture, donc du ganja. Et donc je pense que l'éducation doit aussi prêter attention. La pratique de fumer le ganja a révélé des soucis difficiles, et notamment que Beaucoup dans la communauté, beaucoup se sont permis d'utiliser le nom de Rastafari, donc pour pousser la légalisation de la marijuana. Et donc, ça peut être un détriment pour ces minorités. Et je crois qu'un des moyens de résoudre ce problème est d'avoir un dialogue sur ce problème. Et je pense que l'une des solutions que quelqu'un a mentionné, c'est qu'en Afrique du Sud, nous utilisons le mot de banqui, qui en fait décrit une petite boîte d'allumettes. C'est en fait une petite boîte dans laquelle on mettrait du ganja pour que leur permettre donc de fumer. Donc c'est peut-être aussi quelque chose qu'il faut à laquelle il faut réfléchir. Où arrive, où est-ce que l'on fume la ganja? Et peut-être que comme ça, on ne marginaliserait pas un groupe de gens qui, je crois, devraient être regardés comme des êtres humains à part entière. De par notre constitution, nous avons tous le droit de vivre notre religion. Donc, je crois que nous devons nous assurer que le droit du peuple Rasta soit préservé. C'est la seule réponse que je peux donner. Mais je ne pense pas que vous ayez tort.
Cela est très, très intéressant, mais la journée a été longue. Je suis sûre que vous voulez manger. Je veux remercier les membres du panel.